La revanche du passé, chapitre 4. Aux courtes nuits transparentes, où jusqu'au matin l'air reste tiède et lumineux, avaient succédé les lourdes ténèbres d'hiver. Décembre était venu, et Élisabeth ne pouvait plus, pour attendre les retours tardifs d'André, s'accouder à la fenêtre comme elle l'avait fait les premiers mois de leur mariage. Elle sortait peu. La sauvagerie due aux expériences de son passé, au lieu de diminuer depuis qu'elle possédait dans la société une place à elle, semblait au contraire s'accentuer à mesure que les jours passaient sans lui apporter ce qu'elle avait espéré. Sa vie prenait des plis fixes et sa jeunesse se barricadait contre de vagues dangers, peuplant de leurs ombres insaisissables sa pensée toujours agitée. Au début de son installation dans l'appartement choisi par André, elle avait pendant quelque temps éprouvé une joie d'enfant à décorer cet intérieur nouveau où aucun souvenir amer ne traînait autour d'elle. Avec l'aide de Mariette, toujours accorte et empressée, elle s'était efforcée de mettre dans les achats incessants, coûteux et disparates d'André, de l'ordre, de l'harmonie et de l'élégance. L'intarissable largesse de son mari l'étonnait tous les jours davantage, mais elle s'abstenait de toute observation. Elle aurait eu horreur de rien laisser transpirer devant André de l'accusation formelle exprimée jadis contre lui par Madame Georges dans une heure de crise. Peu à peu, elle s'était lassée de chercher à embellir leur demeure, à la rendre gaie et attrayante. André ne s'apercevait même pas de ses efforts. Il fallait les lui signaler un à un. Il était clair que tout cela ne l'intéressait plus comme au commencement. Et à le voir demeurer si indifférent, elle s'était dégoûtée de peines superflues qui nécessitaient auprès d'elle la constante présence de Mariette. Elle n'avait jamais réussi à vaincre le singulier malaise que le voisinage de cette fille rieuse lui causait. Pour la fuir, elle allait s'enfermer dans une chambre écartée, et, quelque travail de couture dans les mains, elle laissait vagabonder sa pensée, au milieu d'anticipations ardentes, ayant toutes un même objet fixe, le retour d'André, pour une de ses rapides apparitions, de plus en plus courtes. Parfois, elle prenait un des livres qui traînait sur les meubles, et elle essayait de lire. Mais sa pureté intérieure, restée intacte, se révoltait des bassesses malsaines du vice, de la crudité du langage, ou ailleurs des déguisements flatteurs dont on voilait le pénible développement d'épisodes éternellement les mêmes. Écœurée, elle jetait le livre loin d'elle, étonnée qu'André goûtât ces choses brutales, et de plus en plus assoiffée de quelques sources fraîches, dont aucun limon ne troublerait le cristal, et où elle put, à longs traits, boire enfin le bonheur. Ce jour-là, elle n'avait pas revu André depuis le matin. Et quand, de la voûte terne et grise du ciel d'hiver, la nuit fut tout à fait tombée, elle alla s'asseoir comme d'ordinaire à côté de la lampe, et, les doigts occupés à quelques chiffons, l'esprit errant, elle commença sa veillée d'attente. À quelque heure que le jeune homme rentra, il trouvait sa femme debout, pâle et patiente, et il avait, pour lui expliquer ses longues absences, l'irrégularité de ses apparitions, ses rentrées tardives, toujours la même excuse plausible. Cette maudite tannerie, qui, faute d'argent, ne pouvait pas marcher. Il s'en prenait à tout le monde, à son oncle, vieil égoïste vivant dans son coin comme un rat malade resté glouton, à sa tante, qui se laissait mener pieds et poings liés par un homme imbécile, bourré de principes abracadabrants. Vraiment fantastique à force d'être absurde. Un être ridicule, à fond, quoi. Avec ça, ayant toujours quelques recettes à offrir aux gens pour les faire mourir plus vite de misère à l'ombre. Il s'en prenait à l'ignorance de Michael, un nouveau-né en affaires, un niais qui se laissait prendre à tous les pièges. Depuis quelque temps, En écoutant égrener ce chapelet de plaintes, toujours les mêmes, Élisabeth croyait discerner, dans la colère de son mari, une intention cachée qui la visait, elle, personnellement. Sa pauvreté? Était-ce cela qu'André lui reprochait ainsi, jour après jour, de cette façon voilée? Mais pourquoi cette installation coûteuse, s'il avait besoin d'argent, ce bien-être qu'il ne partageait jamais avec elle, ce luxe solitaire auquel elle ne tenait pas? Cette nuit-là, lorsqu'elle entendit résonner sur les dalles le pas connu, la nostalgie d'un bien perdu, le désir passionné de le reconquérir, la jeta à la rencontre de son mari, décidée cette fois à élucider coûte que coûte les insinuations vexatoires qui la blessaient journellement. Peut-être ne trouverait-elle, au fond de son anxiété, qu'un de ces fantômes imaginaires, si familiers à son esprit soupçonneux. Mais, sans lui laisser le temps d'ouvrir la bouche, André lui reprocha, avec un peu d'acrimonie, son obstination à l'attendre. Cela n'avait pas le sens commun, de veiller ainsi nuit après nuit, sans l'ombre d'une raison. De quoi s'inquiétait-elle? Elle avait pris là une sotte habitude, qu'il fallait changer. Pourquoi ne se couchait-elle pas tout simplement, elle qui était à l'abri de la tracasserie des affaires? « Tu as vraiment l'air de me surveiller, » conclut-il. « Cela me vexe, à la fin. » Élisabeth ne répondit pas. Il y avait dans les paroles d'André des vérités qu'elle ne pouvait pas contester. Non, elle ne pouvait pas nier les craintes dont son âme défiante était toujours obsédée. La vague inquiétude qui la tenait ainsi debout, nuit après nuit, dans la même fièvre d'attente. Plusieurs fois, André avait eu, en la trouvant ainsi sur pied à des heures quelquefois matinales, des mouvements d'impatience très transparents, mais c'était la première fois qu'il exprimait tout haut sa pensée. Elle fut sur le point de dévoiler à son mari le monde obscur qui avait vécu en elle depuis le jour où il lui avait dit, en balançant dans sa main une touffe de seringa, « À la bonne heure, plus de noir !» Jamais elle n'avait oublié le regard d'indifférence absolue qui soulignait la remarque. Ni plus tard, le même jour, la fleur blanche piquée au corsage de Mariette. Mais André se promenait de long en large d'un pas nerveux. Elle ne pouvait pas offrir des confidences qu'il ne désirait pas, forcer sa pensée distraite à la voir. Tout à coup, il s'arrêta devant elle, et après une courte hésitation, il l'appela par son nom, tout bas. « Élisabeth !» Une émotion brusque la secoua. Elle courut à lui, irradiée. À cet appel inattendu, presque tendre, ses obscures appréhensions s'éparpillaient comme des feuilles mortes dispersées de ci de là par un souffle de brise. Tout de suite, il passa son bras autour de la taille fluette, flexible, et très légèrement, il effleura de ses lèvres les yeux, le front, puis doucement, mais délibérément, il éloigna la jeune femme de lui. « Là, là, nous ne sommes plus des enfants. » Et il y avait dans la voix un tel accent de lassitude qu'Élisabeth, frémissante, recula d'un pas. « Ah ! » murmura-t-elle suffoquée. « Tu ne m'aimes plus comme autrefois. » Elle ajouta douloureusement « Pourquoi ? Dis-moi pourquoi. » « Il faut me pardonner mes distractions, Élisabeth, » dit-il sans se rapprocher d'elle. « J'ai des inquiétudes si sérieuses qu'elles me font tout oublier. Si je ne trouve pas 10 000 francs demain, la tannerie va au diable. Il m'est impossible de faire attention à quoi que ce soit d'autre, tant que j'ai ce souci sur l'esprit. Comprends-tu ?» Cette éternelle question d'argent entra dans la blessure d'Élisabeth comme un fer rouge. Elle ne répondit pas. « Aie patience avec moi, Élisabeth, » reprit-il après un court silence. « Je t'aime bien, je t'assure, mais je ne peux pas penser à autre chose qu'à cette stupide baraque. Chaque jour d'inaction nous mange tout vivant. Cela ne peut pas durer plus longtemps. et s'asseyant, il attira sa femme sur ses genoux. « À force de penser à la même chose, j'ai la tête vide, moi. Je ne trouve plus rien. Je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que tu n'aurais pas une idée, toi ? Je t'assure que c'est à en devenir fou. » Élisabeth passa son bras autour de son cou. « Tu ne me parles jamais de ce que tu as, » murmura-t-elle. « Et je n'ai plus osé t'interroger, moi, parce que tout ce que je dis a l'air de t'impatienter. Maintenant, je ne sais pas comment te consoler, t'aider. » « Voyons, » dit-il en la serrant étroitement contre sa poitrine, « est-ce que tu n'aurais vraiment pas une idée, en cherchant bien ?»« Moi ? » s'écria-t-elle anxieuse. « Oh, si je pouvais, mais tu sais bien que je ne suis rien et que je n'ai rien. » Il l'enveloppa de plus près, tourna son visage vers le sien, lui donna sur les lèvres un long baiser. « Oui, » dit-il enfin d'un ton bas, « je suis sûr que tu m'aideras, si tu peux. Cherche, je t'en prie, ma petite Élisabeth, cherche bien. » Elle sentit tout à coup un dard la piquer, entrer profondément dans la partie la plus sensible de son être. Elle se leva et, debout devant lui, demanda sourdement « Pourquoi me parler ainsi ? As-tu oublié que je ne possède rien ? Pourquoi me dire ces choses inutiles quand tu sais aussi bien que moi que je ne peux rien ?» André se leva brusquement. « Tu pourrais, mais tu ne veux pas, » dit-il sèchement. « Voilà la vérité. » Après un court silence, il ajouta d'un ton radouci, « Si quelqu'un peut me tirer de l'impasse où je suis, c'est toi, Élisabeth. » Il poursuivit plus froidement. « Si tu m'aimais comme tu le dis, l'effort que je te demande ne serait rien pour préserver un homme de la ruine. De la ruine, tu entends ?» Élisabeth resta un moment silencieuse, puis, les lèvres blanches, tremblantes, elle balbutia. « Tu voudrais que je demande ? Que je demande ?» André se rapprocha vivement. « Tu es vraiment trop dur pour ta mère, » dit-il. « Personne n'est impeccable. Personne ne peut marcher la tête haute toute sa vie sans avoir rien à se reprocher. Que diable ! La terre n'est pas peuplée d'anges. J'ai rencontré ta mère l'autre jour. « C'est à peine si je l'ai reconnue. C'est une vieille femme à présent. Une ruine, c'est à n'y pas croire. Est-ce que toi, sa fille, tu n'as aucune pitié d'elle ?»« Je ne puis pas oublier la honte. »« La honte, » dit Élisabeth sourdement. « Oh, s'il n'y avait pas cette honte !» André lui prit brusquement les deux mains. « Écoute-moi, Élisabeth. » « J'aime mieux te dire les choses comme elles sont. Tu feras ce que tu voudras. Si demain, je n'ai pas 10 000 francs dans la main, il faudra coûte que coûte vendre la tannerie et perdre, avec les chances de l'avenir, le capital engagé. Si ta mère, au contraire, consent à nous prêter cette somme, nous pouvons faire face aux premières nécessités, retrouver la confiance du public, remettre à flot une superbe entreprise. Comprends-tu ? « Mais, » murmura Élisabeth tremblante, « tu ne sais pas ce qu'elle m'a dit de toi autrefois. Elle prétendait que... » André la lâcha brusquement. Il avait cru sentir passer à travers ses propres cheveux le souffle froid de l'intraitable mépris d'Élisabeth. Un instant, il avait eu conscience de la bassesse du plaidoyer qu'il faisait auprès d'elle. Il alla s'accouder à la cheminée sans répondre. Effrayée de son mouvement et de son silence, Élisabeth le suivit. Qui pouvait savoir ? Peut-être, en consentant à faire l'effort qu'André demandait d'elle, retrouverait-elle auprès de lui la place qu'elle avait occupée au commencement de leur mariage ? Peut-être serait-elle mêlée enfin à sa vie, associée à ses intérêts ? Peut-être son bonheur chancelant retrouverait-il une assise nouvelle et plus solide ? « Eh bien oui, » murmura-t-elle, suffoquée d'émotion. « Pour que tu m'aimes comme autrefois, j'irai. J'irai. » Il la prit dans ses bras, la couvrit de caresses tendres, exubérantes, un peu fiévreuses. « Ma petite Élisabeth, ma petite femme chérie, oh, tu verras comme tout va changer pour nous. Tu vois, tu n'as eu qu'un seul mot à dire pour chasser mes idées noires. N'es-tu pas déjà contente de ce que tu as fait ? Oh, je t'aime bien, va. Je t'aime mieux que je ne t'ai jamais aimé. Je ne te connaissais pas encore, mais maintenant je sais ce que tu vaux. Embrasse-moi. » Élisabeth oublia les piqûres de son amour-propre. Ses jours solitaires, décolorés, toutes les expériences décevantes de sa vie conjugale. Elle eut une minute de joie parfaite. « Tu comprends les choses, n'est-ce pas ? » reprit André après un moment. « Il ne faut pas exagérer les difficultés de ton ambassade. Demander un prêt en donnant des garanties sérieuses n'est pas du tout une requête humiliante. Au contraire, c'est une simple complaisance bien récompensée. Tu comprends ? Une simple complaisance, rien de plus. » Ne recevant pas de réponse, il ajouta « On demanderait ce service à des étrangers. Est-ce que cela te semble encore si difficile ?» Élisabeth fit de la tête un signe vague, mais elle ne dit rien. À cette misérable question d'argent, toujours renaissante, elle sentait tout son appétit d'autre chose lui revenir inassouvi. André poursuivit. « Grâce à toi, Élisabeth, tout pourra s'arranger. J'étais bien sûr que tu me comprendrais. » Et comme Élisabeth, malgré les efforts qu'il faisait pour l'associer à sa joie, continuait de se taire, gardant au front le pli soucieux qu'il connaissait bien, ce signe certain d'aspirations intérieures impossibles à satisfaire, il reprit gaiement. « C'est Michael qui sera content. Il sait que je devais te parler aujourd'hui. » La jeune femme vit sa lutte humiliante étalée aux yeux d'un étranger, commentée, jugée. Toute sa délicatesse froissée frémit, et sa courte griserie acheva de se dissiper. Elle resta morne et silencieuse, tandis que le jeune homme, très excité, l'initiait pour la première fois à ses brillants projets d'avenir, lui détaillait avec une minutie verbeuse les chances de son entreprise, si enthousiasmé par ses propres assurances qu'il ne s'apercevait plus du tout de l'attitude changée d'Élisabeth, ni de son obstiné silence. Chapitre 5. Il était passé 4 heures lorsqu'Élisabeth se rendit le lendemain chez sa mère. Elle n'avait pas trouvé pendant toute une longue nuit sans sommeil de raison plausible pour reprendre la parole donnée. Et le matin même, les instances d'André l'avaient obligée à fixer à l'après-midi sa visite. Elle s'en était allée à pas lents le long du chemin qu'elle parcourait si rarement, et tout en marchant, avait cherché, sans la trouver, une forme présentable à donner à sa requête. En lui arrachant ce matin-là, par de fiévreuses sollicitations, la promesse de lui apporter une réponse le soir même, André l'avait rendue incrédule aux assurances reçues de sa bouche la veille. C'était un service, un sacrifice peut-être qu'elle allait demander à sa mère. Il ne s'agissait pas d'une ordinaire complaisance, non. Lorsqu'une demi-heure plus tard, sa visite faite, elle sortit de chez Madame Georges, le ciel était brumeux et quelques gouttes de pluie commençaient à tacher la poussière. Elle héla un fiacre, jeta l'adresse, et à travers les rues mouvementées, elle se laissa emporter, distraite, l'œil errant dehors par la portière, et suivant sans le voir le défilé des magasins, l'incessant croisement des voitures, et toute l'armée mouvante des piétons, ceux-ci pressés, se hâtant vers leur but, ceux-là badaudant devant les étalages. Elle traversa toute la partie élégante, bruyante, vivante de la ville, puis peu à peu, la circulation se ralentit. Le fiacre roulait toujours, et elle se trouva bientôt dans un quartier entièrement inconnu, excentrique et désert. C'était un large faubourg misérable, avec de droite et de gauche de vastes terrains vagues, d'une nudité lugubre sous le ciel gris. Des petites masures basses, des échoppes de tout métier, pullulaient sur ces espaces de terre, arides et libres. Le fiacre s'arrêta enfin en face d'un bâtiment de briques rouges, terni, noirci, mangé par l'air et l'eau, dressant très haut une carcasse piteuse. Élisabeth sauta lestement sur le pavé, et avant d'entrer, elle regarda un moment, le cœur un peu serré, l'étrange bâtisse dégradée et sale. Était-il possible qu'il y eût là des promesses pour l'avenir et une sécurité pour l'argent de sa mère? À travers la cassure des petites vitres verdâtres formant les grandes fenêtres d'éclairage, on apercevait des roues immobiles, des bouts de lanières rompues, restés accrochés au poutrage vermoulu. Toute une machinerie délabrée et silencieuse, couverte de longues toiles d'araignées, pendant, déchirées, dans le vide, avec leur fardeau de poussière. Élisabeth poussa la grande porte vermoulue, et tout de suite, au milieu d'un dédale de débris poussiéreux, elle aperçut la silhouette droite et élégante d'André. Elle l'appela d'une voix nette, et dès qu'il fut près d'elle, elle lui jeta l'enveloppe dans la main. Voilà. Comment, déjà? Elle a pu ainsi tout de suite? Il sortit les billets, les compta soigneusement un à un jusqu'au dixième, puis il demanda. Elle n'a rien dit? Elle n'a fait aucune condition? Il ajouta sans reprendre haleine. C'est fort tout de même qu'elle ait pu ainsi tout de suite, sans se déranger. Et s'apercevant tout à coup qu'Élisabeth le regardait d'un regard étrange, un peu pesant, il lui dit « Tu es gentille, toi, d'être venue tout de suite. Tu es vraiment gentille. » En même temps, il la prit par les épaules, amicale, mais elle lui échappa et recula d'un pas. « Non, non. » Dans les mots d'André, dépourvus pour elle d'actualité, voulus, vides de sincérité, elle saisissait trop nettement l'accent d'une incurable indifférence. Elle ne pouvait pas, deux fois pendant l'espace d'une heure, accepter l'humiliation d'une charité. Alors, pour distraire l'éternel désir inapaisé qu'il devinait chez elle, éviter à tout prix la fatigue de nouvelles démonstrations, il appela joyeusement « Michel ! Michel !» Par la porte restée entr'ouverte, Élisabeth se sauva. Montrer à un étranger son visage honteux de mendiante? Non, non. Et le long des rues mortes, son pas conserva une allure de fuite jusqu'à ce qu'elle eût laissé loin derrière elle le spectre inerte de la fabrique. Quelques gouttes de pluie continuaient à tomber, rares et menues. La jeune femme s'orienta, sortit des grandes artères et se trouva à l'entrée du parc, ombreux et solitaire, où, si souvent autrefois, lorsqu'elle était une toute petite fille, elle était venue courir autour des marbres, sous l'œil attentif de sa mère, les dimanches d'été. Dans ce temps-là, le souffle mortel n'avait pas encore passé sur sa tendresse, la flétrissant comme le froid d'une nuit tue la fleur nouvellement éclose. Si elle souffrait déjà, alors, dans sa petite âme molle d'enfant, de la solitude de ses heures et de l'humeur acariâtre de Gertrude, c'était d'une façon vague et indécise, au gré de sensations flottantes, que son esprit n'analysait pas encore, et qu'un seul sourire de sa mère chassait. Dans ce temps-là, elle aimait sa mère aveuglément. Aujourd'hui, à la place où vivait jadis un sentiment unique, si fort, il n'y avait plus que des débris, la ruine, la désolation. Rien n'était changé dans ce cadre frais, où autrefois, en plein air libre, ses joies enfantines éclataient au soleil. Les arbres vigoureux n'avaient pas sensiblement grandi. Dans le bassin de pierre, le jet d'eau svelte éparpillait toujours au vent ses gouttelettes de cristal. À peine, pendant toutes ces années lentement disparues, les buissons bas, sans cesse taillés, émondés, mutilés, avaient-ils pris une épaisseur plus massive? Non, Rien, absolument rien n'était changé dans l'aspect extérieur des choses. Le temps semblait avoir glissé sans y toucher au travers des feuilles et des fleurs. Mais pour les floraisons intérieures, cette bienfaisante loi de renouvellement n'existait pas. Ce qui était mort en elles était mort, sans retour possible à la vie, sans perspective aucune d'une renaissance quelconque. L'approche de la pluie avait dégarni les bancs. Seules quelques voitures d'enfants, retardataires, se hâtaient vers la sortie, faisant crier le gravier des allées. Élisabeth s'enfonça dans un sentier obscur, trouva le banc où sa mère allait s'asseoir pour la regarder jouer avec le sable du chemin quand elle était toute petite, ou plus tard, déjà grandelette, l'amusait en lui racontant des histoires. Elle s'assit, et tout de suite les larmes l'étouffèrent. Au-dessus de sa tête, les gouttes de pluie se multipliaient. Elles tombaient à présent, drues et pressées, martelaient les feuilles plates des platanes, et à côté d'elles, le verdure des lauriers. La poussière de l'allée se marquetait de taches, se criblait de petits trous de plus en plus serrés. La solitude s'était faite complète, et Élisabeth pleura un moment très fort, librement, incapable de contenir plus longtemps l'explosion de chagrin qu'elle refoulait depuis son départ de la fabrique. Mais par sa violence même, cet accès s'épuisa vite. Au bout d'un instant, la jeune femme s'essuya les yeux, résolue à se dominer, et, reprenant une à une les étapes de sa longue après-midi, elle essaya de la revivre tout entière, heure par heure, à la lumière de son bon sens, sans permettre aux insinuations peut-être mensongères de sa passion d'intervenir. Tout d'abord, elle revit l'étonnement intense de sa mère à sa demande hésitante. Dans les grands yeux tendres et tristes, une stupéfaction s'était peinte, si vive qu'Élisabeth avait cru au premier instant que sa tentative serait repoussée sans examen. Mais s'il y avait eu une hésitation dans l'esprit de sa mère, elle n'avait duré que l'espace d'une seconde. Elle s'était dissipée instantanément, et une expression de joie, un épanouissement de la figure fanée, avait aussitôt remplacé le premier choc de surprise. Un peu plus tard, lorsque Gertrude était rentrée, rapportant de la banque l'argent, elle revoyait l'incertitude de la longue main veinée, le tremblement des longs doigts maigres, cherchant à introduire les 10 billets dans une enveloppe, et enfin le mouvement vif de sa mère en lui tendant le pli sans la regarder. Et elle, qu'avait-elle trouvé à dire? Quelle parole était sortie de son gosier serré de honte, d'angoisse? Aucune. Elle s'était enfuie, le cœur si plein qu'elle n'avait pas pu articuler un simple merci. Non, pas même cela. Elle s'était enfuie, le visage brûlant, et pas à pas, jusqu'au moment où elle avait jeté ce détestable argent dans la main d'André, l'image douloureuse, avec son obsédant sourire de joie, l'avait accompagnée. Elle l'avait suivie comme un fantôme effrayant, tantôt mêlée à la cohue des rues, tantôt assise silencieuse à côté d'elle sur la banquette du fiacre, et maintenant circulant mystérieusement dans les allées désertes où la pluie tombait en avalanche. Elle était enfin arrivée à l'adresse donnée par André, et elle lui avait remis l'enveloppe qu'elle avait tenue pendant l'interminable course à travers la ville, serrée entre le pouce et l'index. Elle la lui avait presque jetée. Voilà. André avait fiévreusement compté les billets, un à un, sans prendre garde d'abord à sa présence. Puis, lorsqu'il s'était souvenu qu'elle était là, il avait appelé Michel. Elle se leva brusquement. La nuit était venue, et la flamme des réverbères étoilait de clarté rousse la lourde atmosphère mouillée. Des torrents de pluie continuaient à tomber. Les magasins étincelants de lumière ouvraient des abris engageants. Fouettée par l'eau et le vent, Élisabeth regagna sa demeure à pied. André ne tarda pas à la rejoindre, et il se mit aussitôt à lui reprocher sa fuite précipitée de la fabrique. Michael avait été stupéfait de sa façon d'agir. Il avait ri à perdre haleine de ce stupide enfantillage. Elle le rendrait la risée du monde à la fin, avec ses absurdes coups de tête. Élisabeth ne répondit pas. Chacune des paroles et chacune des attitudes d'André blessait ce jour-là sa fierté. Elle ne pensait pas du tout à s'excuser. Luttant avec quelque chose d'obscur qui s'agitait dans son âme, elle passait en revue rapidement les 2 années de sa vie conjugale. Et tous les faits du passé semblaient se souder et se compléter d'une façon inattendue. En même temps, une certitude abominable, tenue jusque-là captive, bataillait énergiquement pour briser ses liens. Parmi tous ces souvenirs amers, il y en avait un plus irritant que les autres, mais si insignifiant qu'elle ne trouvait pas de forme à lui donner. C'était pourtant à cette réminiscence futile qu'elle devait sa première défaillance vis-à-vis d'André. Elle la formula enfin d'une voix contenue. « Il y a longtemps, un soir, est-ce toi qui avais donné à Mariette cette fleur de seringa ?» André la regarda, stupéfait. « Est-ce que tu deviens folle, Élisabeth ?» Ce jour-là, continua la jeune femme du même ton-là, tu avais envie de te débarrasser de moi. Tu m'as dit « À la bonne heure, plus de noir !» Et tu m'as envoyé chez maman, et tu tenais cette fleur de seringa. Et tout cela s'est lié dans mon esprit. Comprends-tu ?»«
Ma foi, non, » dit André froidement. « Tu as des lubies incompréhensibles aux autres gens. »
Après un silence, il ajouta, provoquant.
« Eh bien, oui, c'est moi qui avais donné cette fleur à Mariette. Et après ?»
Mais à peine eut-il formulé cet aveu qu'il le regretta, comprenant tout à coup que cette galanterie bête, faite au début de leur mariage à une autre femme, à une servante, dans la maison même où habitait Élisabeth, l'avait de trop bonne heure renseignée sur sa complète indifférence vis-à-vis d'elle. Mais que tout cela était puéril! Est-ce qu'on pouvait exiger d'un homme une adoration exclusive dans un tête-à-tête de toute la vie, lorsqu'on n'avait rien d'autre pour le retenir que des exigences tous les jours grandissantes? D'autres auraient ri des détails mesquins auxquels Élisabeth s'accrochait. Mais Élisabeth ne riait jamais de rien. Avec elle, on était toujours sur la sellette, forcée d'expliquer le va-et-vient de ses plus minimes pensées. Il fit un effort pour dissimuler son mortel ennui, et il reprit doucement. « Pourquoi me cherches-tu querelle, justement aujourd'hui, où je revenais à toi si content ?» Et, sûr de l'apaiser, comme toujours, par des caresses, il se rapprocha d'elle, un sourire aux lèvres. Mais elle le repoussa avec une telle vivacité qu'il recula stupéfait. Pour le moment, ses ordinaires moyens de conciliation n'étaient pas ce qu'il fallait. Il alla s'accouder à la cheminée, tandis qu'Élisabeth balbutiait, à mots entrecoupés, « Et cela aussi, c'est vrai, n'est-ce pas, que tu as été payé pour me tromper, payé par l'argent de maman ?» Il y eut un silence, puis André répondit froidement. « Ta mère, en te mariant, t'a donné une dot, c'est vrai. Pourquoi pas? Il n'y a rien là qui puisse te blesser. Cela se fait toujours. Toujours, entends-tu? On ne se marie pas autrement. Tu es tellement ignorante des habitudes de l'existence commune qu'on ne sait pas comment t'expliquer les choses les plus simples. » « Pour moi, dit Élisabeth amère, les règles ordinaires de la vie sont sans valeur, et tu le savais bien quand tu m'as nié avoir rien reçu de maman. Tu le savais. Autrement, tu aurais parlé comme tu parles aujourd'hui. Mais tu as eu peur de voir l'argent t'échapper, et tu as nié, car tu as nié.
Ta mère te l'avait caché, je n'ai pas voulu contrarier ses plans, j'ai fait comme elle, voilà tout. »
Élisabeth se tut.
Elle revivait avec une poignante intensité la scène où sa mère, à bout de courage, lui avait abandonné le choix de sa destinée. Ce n'était pas sa mère qui l'a trompé ce jour-là. Non. Depuis, tous les jours, patiemment, faisant d'elle le jouet complaisant de ses caprices, André avait spéculé sur son stupide attachement, comme on spécule sur une valeur à intérêt qu'il faut faire travailler. Et il avait joué ce jeu malpropre, sans même en sentir la bassesse, le trouvant tout naturel. Elle eut un élan de désespoir. Elle courut à lui et lui secoua les deux mains. « Mais défends-toi » dit-elle ardente. « Défends-toi ! Ne comprends-tu pas ce que tu me fais souffrir ? N'as-tu rien dans le cœur ni dans l'esprit ? Est-il possible que je sois assez malheureuse pour m'être trompée à ce point ? Mais dis donc quelque chose ! Ne me laisse pas l'horreur de ce mépris ! Défends-toi ! Dis quelque chose !» André resta un moment perplexe. L'excitation d'Élisabeth lui semblait exagérée jusqu'à friser le ridicule. Il ne comprenait rien à son cri d'angoisse. Tout cela était de la mise en scène, du mélodrame. Et à ce moment critique où il avait dans l'esprit d'autres soucis que les crises de nerfs d'une femme à grand sentiment, ce surcroît d'ennui tombait mal. Pourtant, Élisabeth était plus que jamais une alliée précieuse. Il fallait la ménager. Il s'approcha d'elle, souriant. « Qu'est-ce qu'il faut donc dire pour t'apaiser, Élisabeth ? « Voyons, dis-le-moi toi-même. Dicte-moi ce que je dois dire. » En même temps, il essaya de l'attirer à lui. Elle le repoussa durement. Une montée de dégoût la suffoquait. « Ah non ! » cria-t-elle. « Laisse-moi ! Va-t'en ! Va-t'en ! » Chapitre 6. Avant de sortir, Madame Georges se retourna. Elle sentait, comme toujours, l'œil attristé de Gertrude, attaché à la friperie de ses vêtements de deuil, la commentant tout bas. Sa figure, presque toujours immobile, un peu rigide, ébaucha un sourire. « À tantôt !» Et sans attendre de réponse, elle s'en alla vite. Elle ne pouvait pas donner le change à sa compagne. Le dénuement entrait dans la maison par toutes les portes. Il était inutile de chercher à égarer sa perspicacité, mais elle ne lui avait jamais permis, et elle ne lui permettrait jamais, de mentionner tout haut le soupçon du sacrifice fait pour Élisabeth. Il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas tolérer sur les lèvres de Gertrude. Non. Elle avait dû mesurer à fond sa dette chaque jour grandissante envers la fidèle alliée qui acceptait sans mot dire le retour des heures difficiles, pour lui pardonner la joie manifestée au moment du départ d'Élisabeth. Elle ne parlait jamais avec Gertrude de la jeune femme. Élisabeth était restée pour la servante l'enfant de la faute, la preuve évidente de la faute. Les seules syllabes de son nom irritaient dans l'esprit des deux femmes un point particulièrement douloureux. Elle gardait sur ce sujet un silence obstiné. Madame Georges avait repris son ancienne existence de course, de travail, tâche morne, désormais sans stimulant, qu'elle traînait derrière elle avec une lassitude tous les jours plus pesante. Ses relations avec des inconnus, jadis faciles, l'exposaient aujourd'hui à 2 millions de frottements. On discutait longuement les chiffres qu'elle proposait, on avait des familiarités protectrices que dans l'éclat de son éblouissante jeunesse, elle n'avait jamais connu. Dans les demeures où autrefois elle avait été accueillie avec bonté, on la regardait d'un œil indifférent. Personne ne la reconnaissait. On avait le plus souvent oublié jusqu'à son nom. Ailleurs, il fallait subir les questions de gens défiants, qui toisaient son deuil fané comme s'il cherchait à sa brusque déchéance une cause honteuse. Il lui semblait que sa faute, unique et lointaine, reprenait vie et venait l'avilir jusqu'au seuil de la vieillesse. Écrasée entre le passé et l'avenir, son âme étouffait d'une perpétuelle angoisse. Gertrude avait accompagné sa maîtresse sur le palier, et elle suivit des yeux la silhouette noire jusqu'à ce qu'elle eût tout à fait disparu. Dans ses plus sombres prévisions de l'avenir, elle n'avait jamais anticipé ce dépouillement cruel. Elle n'avait jamais imaginé la misère matérielle, où, sans regarder ni en avant ni en arrière, avec une froide insouciance, sans même jeter, en guise de remerciement, un sourire de pitié, Élisabeth plongeait sa mère. Elle pensa à la figure insensible, sortant toute blanche des étoffes légères, lors de la première visite de la jeune femme après son mariage, et elle murmura « Je la hais !» En ce moment, un coup de sonnette vibra, un coup sec, nerveux, que Gertrude connaissait bien. Elle courut à la porte, sûre de trouver sur le seuil la créature sans cœur qui avait désorganisé toute l'existence de sa mère. Et en effet, elle se trouva vis-à-vis d'Élisabeth, plus pâle qu'à l'ordinaire, presque livide. Tout de suite, de son corps épais, elle obstrua le passage. Et, heureuse de se sentir une fois délivrée de l'étroite surveillance de la mère, elle dit sèchement « Il n'y a plus rien à prendre ici. Que venez-vous faire ? Madame n'y est pas. Elle travaille du matin jusqu'au soir, comme à l'ordinaire. » Au ton hostile, Élisabeth reconnut la malveillance qui avait fait route avec elle depuis sa petite enfance, rampant sous ses pas avec une allure de reptile, sans jamais se manifester au grand jour ni expliquer sa raison d'être. L'injustice du passé, qui jadis froissait sans cesse dans son âme de petite fille un besoin d'équité, semblait, aujourd'hui qu'elle avait dépouillé sa mère, se légitimer, revêtir tout à coup le caractère du droit et de la vérité. Quelque préscience instinctive semblait avoir révélé à une femme sans culture le malheur qu'elle, Élisabeth, en retour d'un infatigable dévouement, apporterait un jour à sa mère. Cette servante avait, à force d'amour pour sa maîtresse, pressenti tous ces jours obscurs, et aujourd'hui, les faits donnaient raison à ses prévisions. Et c'était aussi à force d'aimer sa mère que cette femme l'avait détestée, elle, l'enfant, l'obstacle visible, tangible, brutal, qui rendait impossible vis-à-vis du monde aucun retour dans le chemin ouvert de l'honneur. Elle fut sur le point de trahir son angoisse à cet intraitable antagoniste, de lui demander une trêve pour l'heure sombre et désolée, ou tout au moins, à défaut de pitié, de lui arracher des éclaircissements précis sur le sacrifice de sa mère. Mais l'effort était trop grand pour son orgueil. Le courage lui manqua. Elle murmura « Vous m'avez toujours haï, Gertrude. Depuis que je suis au monde, vous m'avez toujours haï. » Et l'écartant de son chemin, elle entra. D'une porte ouverte au fond du corridor, un jour chétif venait, éclairant à peine la nudité froide de l'appartement. Elle regarda un instant autour d'elle l'installation pauvre, presque misérable, puis elle murmura « Oh, si seulement je pouvais oublier la honte ! La honte !» Et pour fuir l'œil froid de Gertrude qu'elle sentait fixé sur elle, épiant son attitude et cherchant à surprendre ses paroles étouffées, elle entra dans la chambre d'où venait la lumière, enferma la porte sur elle et alla s'asseoir devant la table. La tête cachée entre ses mains, elle se mit à réfléchir profondément. Au milieu d'un « ouh, ouh » continu de grosses mouches d'arrière-saison qui glissaient le long des vitres jusqu'en bas, puis remontaient le verre, refaisant infatigablement le même trajet. Elle reprenait les choses depuis le commencement, et elle essayait de se rassurer. Elle n'avait pas, après tout, non, elle n'avait jamais eu entre les mains la preuve absolue qu'André eût exploité sa mère jusqu'à la ruiner. Si pourtant elle s'exagérait son malheur. Sa blessure personnelle, aiguë et profonde, la rendait impropre aux équitables conclusions. Elle s'était arrêtée trop vite aux apparences, Oui, elle s'était laissée prendre tout entière à la vraisemblance. Mais n'était-il pas possible qu'elle se fût trompée sur la grandeur du désastre? Depuis qu'elle était au monde, on lui avait caché tant de choses. Tant de choses resteraient pour elle enfouies dans la lourde brume du passé. De son père, elle ne savait rien, pas même le nom. Elle ne saurait jamais rien du funeste roman de sa mère. Elle se souvenait très bien que, lorsque la nouvelle de l'héritage était arrivée, sa mère elle-même avait été surprise. Le testament de l'aïeul ne pouvait-il pas avoir été contesté, annulé? Et cette rechute dans la pauvreté s'expliquait par une cause qui lui restait inconnue. Elle se leva, se dirigea machinalement vers la fenêtre, l'ouvrit, et entre les toitures serrées, elle regarda un moment l'étroite bande de ciel, d'un bleu lavé, effacé, très lointain. Puis elle murmura « Pourquoi est-ce que je me dis ces choses? À quoi bon ?» Et brusquement, la réalité rétablit autour d'elle son cercle étroit, méchant, qui la broyait de tous les côtés à la fois. Elle balbutia désolée « André, André !» Et elle se mit à sangloter tout haut, avec la sensation aiguë d'avoir aimé un mort, ou un être irréel qui lui échappait, qu'elle ne pourrait plus jamais saisir. Ce qui avait éveillé en elle la tendresse qui dort au cœur de toutes les femmes était donc l'œuvre de son imagination? Inspirée par son incurable ressentiment et par le désir de quitter le foyer de sa mère, elle avait vêtu un squelette d'oripeaux trompeur pour l'adorer comme un fétiche. Elle pleura très longtemps, secouée par des soubresauts d'indignation. Elle se révoltait contre sa faiblesse, contre son aveuglement volontaire, qu'il avait pendant deux longues années asservi à un homme faible, banal, rusé, flottant sur les éventualités de l'existence comme un bois mort. Qu'avait-elle été entre ses mains? Un instrument passif, jeté ou repris selon les besoins de l'heure. Elle était devenue ainsi stupidement complice de la ruine de sa mère. Quand ses larmes tarirent enfin, elle se mit à aller et venir dans la chambre, lentement, écrasée par le poids d'une obligation impossible à acquitter. Après le long martyre muet de sa mère, aboutissant à ce désistement incroyable, lui offrir de la pitié? Non. Il n'y avait qu'une seule façon d'alléger sa dette, une seule, oublier le passé. Oui, l'oubli, l'oubli voulu, absolu, l'effacement généreux et brave, sans arrière-pensée. Mais cet effort-là, cette générosité-là, ce triomphe sur ses instincts révoltés, lui était impossible. Jamais elle ne pourrait effacer ce qui était, agir et penser comme si elle ignorait le passé, réveiller l'énergie de son cœur engourdi. Alors, que faire? Quelle attitude trouver vis-à-vis de sa mère, où une gratitude dépouillée de respect et de tendresse ne fût pas une offense? Confesser son erreur, chercher une excuse, un semblant d'excuse dans sa propre misère, sans lendemain possible? Non, ce serait agrandir et faire saigner davantage la plaie béante. Simuler des sentiments qu'elle n'avait pas, qu'elle ne pourrait jamais avoir? S'abaisser à une trahison systématique? Oh non, jamais. Mais alors que faire? Tout à coup, son visage expressif s'illumina d'une joie brusque, intense. Elle interrompit net sa promenade enfiévrée, tandis qu'une attention profonde, tendant ses traits délicats, les immobilisait un instant dans une rigidité de marbre. Elle resta quelques secondes, droite au milieu de la chambre, l'œil noir fixé devant elle, très ouvert, puis elle balbutia « Mon enfant, mon enfant !» Dans son sein, la vie venait de s'éveiller, et la certitude de sa prochaine maternité la possédait pour la première fois tout entière, la pénétrait d'une ivresse inconnue, puissante. Elle joignit enfin les mains dans un transport de délivrance. tout près d'elle. La solution venait de surgir, inespérée. Elle la découvrait tout à coup sous une forme que son irréductible orgueil pouvait accepter. « Mon enfant ! Mon enfant !» En ce moment, elle aperçut sur le seuil le visage mécontent de Gertrude. Inaperçue, la servante l'épiait depuis un moment. Élisabeth la considéra quelques secondes, indécise, puis brusquement elle courut à la forme massive, saisit les poignets vigoureux, les secoua, et avant que l'inimitié injuste qui avait pesé sur elle dès avant sa naissance eût le temps de se manifester, elle jeta à la figure malveillante son cri de joie. « Mon enfant ! Mon enfant !» Quelques minutes plus tard, cachée au fond d'un fiacre, elle roulait du côté de la fabrique. Avant tout autre soin, il fallait arracher à André l'os qu'il rongeait gloutonnement, stupidement. Le forcer à vendre cette misérable baraque, qui ne secourait jamais sa léthargie, et où l'argent de sa mère continuait à s'engouffrer par large nappe de 10 000 francs. Elle avait retrouvé toute sa lucidité d'esprit. Et elle voyait se dessiner devant elle une ligne de conduite très nette. Quand le fiacre s'arrêta, elle sauta à terre, et d'un pas ferme, elle s'achemina vers la carcasse de briques délabrée et déserte. La porte ayant résisté à son effort, elle atteignit le bout de fer d'un cordon de sonnette dépouillé de sa poignée, rouillé et mutilé, et aussitôt l'éclat d'une grosse cloche secoua l'air endormi, courut à travers la poussière, rendit au bâtiment vide un instant de vie bruyante et factice, puis le silence se rétablit, écrasant. Entre ces murs lézardés, il n'y avait évidemment personne. Midi sonnait, et dans les rues, le va-et-vient du milieu du jour s'enfiévrait. Comme la première fois, Élisabeth sortit des grandes artères populeuses pour atteindre le parc, où voltigeaient parmi les arbres les souvenirs ternes de son enfance. L'image de sa mère, telle qu'elle était dans ce temps-là, se dressa aussitôt au milieu d'eux, et elle se souvint tout à coup du but de sa visite matinale ce jour-là. Elle ne pouvait pas décevoir la confiance d'un moribond qui s'était adressé à elle pour parvenir jusqu'à sa mère. L'impatient désir de Monsieur Musso d'obtenir une entrevue lui avait servi à elle-même de prétexte pour se rendre chez sa mère, et elle y avait couru, poussée par l'âpre désir de voir les choses de ses propres yeux, de découvrir, si possible, l'étendue du sacrifice maternel. Elle sortit du parc, entra dans un bureau de poste et griffonna une dépêche. Puis, d'un pas de plus en plus rapide, elle reprit sa course vers la demeure où, sans doute, André se trouvait déjà et peut-être l'attendait. Un quart d'heure plus tard, elle rentrait, mais André était sorti de grand matin sans laisser de message, et depuis il n'avait pas reparu. De son ton souriant et vif, Mariette lui rendit compte des faits sans y rien ajouter. À cause de cette fille, dont elle sentait l'œil curieux constamment fixé sur elle, Élisabeth se mit à table et déjeuna du bout des dents, mais les morceaux l'étranglaient. Elle se sentait incapable de se contraindre davantage, et elle se décida tout à coup à se débarrasser de cet espionnage, à la fois servile et hardi, que la crainte inavouée d'une contestation possible avec André lui avait fait supporter, jusque-là, impatiemment. À présent, débarrassée de tout scrupule, elle se sentait libre d'agir sur le champ. « Dans un mois, » dit-elle froidement, sans lever les yeux, « je n'aurai plus besoin de vous. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez chercher un autre service. » « Je voulais justement dire aujourd'hui à madame, » répondit Mariette souriante, « que j'avais l'intention de la quitter dans 15 jours. » Elle ajouta, « sans monsieur, la maison ne serait pas tenable. » Élisabeth posa son œil noir sur le visage chiffonné, à la bouche grande et rieuse. Les paroles de Mariette traduisaient la sourde inquiétude qui l'agitait elle-même depuis son retour de la fabrique. Une question lui monta aux lèvres, mais elle ne l'exprima pas. Elle refoula l'envie d'interroger cette créature sournoise, chez qui elle avait toujours cru sentir une occulte envie de la narguer, et comme une surveillance moqueuse, qui suivait tous ses mouvements, devinant peut-être jusqu'à ses angoisses. Après un silence, Mariette continua, toujours souriante. « J'ai souvent dit à monsieur que sans... » Élisabeth l'interrompit. « Sortez !» dit-elle cassante. « Allez faire votre mal, partez sur le champ !» Dès qu'elle fut seule, cependant, sa passagère irritation tomba. Elle n'avait touché que l'épiderme, elle n'avait fait qu'effleurer la surface de son morne désespoir. Seulement, elle s'expliquait à présent l'attitude un peu railleuse qu'il avait si souvent froissée dans ses rapports avec Mariette. André, elle n'en doutait plus, avait divulgué à cette fille les circonstances humiliantes de leur mariage, et sa conduite à elle, ses actes, sa docilité aimante, avait sans cesse servi d'aliment aux curiosités oisives et moqueuses de son entourage. Jusqu'à ce que la porte d'entrée s'ouvrit et se referma bruyamment, elle suivit, attentive, le va-et-vient de Mariette, dont le pas alerte et menu trottinait tout près d'elle. Puis elle se laissa aller sans résistance à sa fièvre d'attente, à ce mal si connu depuis qu'elle vivait avec André, tandis que sur le cadre d'émail, l'aiguille paresseuse marquait les heures du jour une à une. Une à une, le timbre argentin les annonça à mesure qu'elles passaient, lentes et lourdes, et peu à peu, l'acuité des sensations d'Élisabeth s'engourdit dans une pesante torpeur physique. Elle avait épuisé depuis longtemps toutes les conjectures possibles, et à force de les prendre et de les reprendre, de les retourner en tous sens, elle ne saisissait presque plus leur signification. Tout était confusion en elle et autour d'elle. La nuit vint, épaisse et noire, sans qu'elle sortît de son immobilité. Mais à l'aube, quand une première pâleur glissa dans la chambre, elle secoua son engourdissement et se dressa sur ses pieds, raidie, glacée jusqu'au moelle. Une fraîcheur d'arrière-saison avait mis aux vitres une légère buée, et dans la maison, les bruits du matin s'éveillaient. Des boum-boum de pas étouffés allaient et venaient dans l'étage au-dessus d'elle. Des fenêtres s'ouvraient furtivement, et les mille rumeurs insaisissables de la vie bourdonnaient confusément dehors, dans le lointain gris et froid du grand matin. La jeune femme alla appuyer son front au verre humide et demeura l'œil fixe, sans pensée, le cœur inerte, mort. Elle ne sentait distinctement que la lourdeur presque douloureuse de ses membres, et dans son cerveau un engourdissement qui lui semblait bienfaisant. Les lumières éparses qui avaient brillé toute la nuit, ici et là, derrière les fenêtres où veillait le plaisir ou le travail, s'éteignaient une à une. Quelques passants commençaient à paraître dans la rue, premiers esclaves du labeur matinal, chiffonniers à l'affût de la récolte de la nuit, ouvriers se rendant à la besogne, l'outil sur l'épaule, et toute l'escouade des trafiquants de petite industrie. Et peu à peu, les bruits devenaient plus distincts, plus rapprochés. Des voix s'élevaient, toutes sortes de sons d'origine différente se fondaient dans une rumeur continue. Lentement, la grande ville secouait son assoupissement. Tout à coup, à la porte de l'appartement vide, un violent coup de sonnette retentit. La vitre où Élisabeth appuyait son front vibra, et la jeune femme sortit enfin de sa longue torpeur. L'affreuse réalité lui apparut tout entière, comme à la lueur d'un éclair, et elle courut à la porte. Ce ne pouvait pas être André. André avait toujours une clé. Mais c'était certainement quelque messager de malheur, chargé de donner à son incertitude une forme définie, d'en faire une conviction écrasante. Haletante d'appréhension, elle ouvrit, et se trouva face à face avec un homme blond, d'une trentaine d'années, le menton caché sous une barbiche roussâtre, frisée et courte. Il souleva son chapeau de feutre et demanda « Monsieur André Sirier, s'il vous plaît. »
Élisabeth balbutia « Mon mari est absent. »
Et bien qu'elle ne l'eût jamais aperçu, elle devina l'homme dont le nom était associé à ses plus humiliantes expériences. Michel, c'était Michel.
« Absent ? » siffla-t-il étonné.
En même temps, son œil pâle de myope fureta, méfiant, dans l'intérieur encore sombre de l'appartement. Élisabeth devina le doute. Elle s'écarta pour laisser entrer ce visiteur matinal, sentant que la certitude qu'elle redoutait était proche, qu'elle allait lui être assénée comme un coup de massue.
« Absent ? » répéta Michel. « Absent ? Et la faillite ? Il sait bien pourtant que ce n'est pas seulement à votre mère qu'on en doit de l'argent. S'en aller aujourd'hui, c'est une lâcheté. »
« Je ne sais pas, » balbutia Élisabeth, tremblante. « Je ne sais rien. Je ne sais pas où il est. Je... »
Miguel jeta les yeux sur les traits décomposés d'Élisabeth, et sous ses paupières lourdes d'homme fatigué, une flamme de pitié passa. Son ton jusque-là agressif s'adoucit.
« Si j'avais su que les choses tourneraient comme ça, » dit-il gêné. « Mais c'était une chance à courir, vous comprenez ? Si j'avais su, naturellement, je n'aurais pas insisté. Mais André comptait toujours sur l'argent de votre maman pour tout arranger. Il me le disait encore hier. Et puis aujourd'hui, le voilà qui a filé. »
Il resta encore un moment à pitoyer devant cette désolation muette qui était en partie son œuvre. À la fin, pourtant, annonnant d'insaisissables mots de regret et d'excuse, il prit congé. Élisabeth rentra lentement dans ses chambres vides, désolée, où jamais plus le bonheur qu'elle avait connu dans des heures de mensonges, courtes et rares, ne devait revenir, même en passage, s'asseoir à côté d'elle. Elle avait à présent la pleine connaissance de son malheur, la certitude d'être, après tout le reste, livrée seule à une défaite honteuse. Elle s'écria « Le misérable ! Le misérable !» Et la vision de sa mère, mordue par une décrépitude anticipée, dépouillée de sécurité en face de la vieillesse, vint lui écraser le cœur d'un fardeau de regrets brûlants, mais toujours inerte, sans qu'elle réussît à leur trouver une expression quelconque. Elle lutta un moment avec elle-même, essayant d'arracher à ses instincts un consentement, ou tout au moins une complaisance, qui lui permit de tromper sa mère sur l'incurable ressentiment de son cœur. Mais elle se heurta à l'invincible résistance intérieure, toujours la même, irréductible. Il lui était impossible de jouer la comédie du respect. Et sans respect, l'amour filial n'existait pas. Il se transformait, selon les cas, en agression, sourde ou aiguë, en pitié froide, en remords brûlants. Mais le souffle de la vie, l'élément nécessaire, lui manquait. Elle se figura la rencontre prochaine avec sa mère, l'inévitable explication ou la nudité de son cœur, dépouillée des chiffons d'orgueil dont elle l'avait jusque-là enveloppé, parée et travestie, s'étalerait honteusement. Et elle s'écria « Qu'est-ce que je lui dirais, mon Dieu ? Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire ?» Éprise d'une insupportable détresse, elle se tordit les mains, ne voyant aucun moyen de traverser l'impasse où elle allait se trouver acculée, d'en sortir sans mentir, sans ajouter à l'infamie d'André l'hypocrisie d'une fausse attitude. Cela était impossible. Tout à coup, ses traits contractés, désolés, se détendirent. Sa pâleur de morte s'atténua, se teinta de rose, et le long de ses veines courut une montée de sang rapide. Elle joignit les mains sur sa poitrine et resta immobile, attentive. De nouveau, la joie de sa prochaine maternité venait de la saisir à l'improviste. Et à son oreille, elle entendait distinctement un accent inconnu lui épeler pour la seconde fois un long mot difficile.
un long mot difficile, mais dans une langue que son pauvre cœur déçu, meurtri, blessé, pouvait comprendre. Elle resta longtemps rêveuse. Puis, serrant l'une contre l'autre ses mains sèches, elle s'écria « Mon enfant ! Mon enfant ! Oh, mon enfant !» Et plus bas, elle ajouta, comme si elle répondait à l'appel intérieur, insistant. « Cette miséricorde-là, oui, celle-là, il sera à elle comme à moi, à toutes les deux, à elle autant qu'à moi. » Elle réfléchit un moment, apaisée, puis elle ajouta. « Mais moi, qu'est-ce que je vais faire ?» Et le sort difficile qu'elle avait fait à sa mère lui apparut, pour la première fois, très près d'elle, menaçant l'enfant. Thank you.